Émission en jase sur Boulevard 102.1, poursuite de l'émission, il est midi 35. Est-ce que vous avez écouté hier à 19h le podcast sur les grands événements avec Denis Gravel? Denis s'entretenait entre autres avec Stéphane Cadorette, journaliste au Journal de Québec. On parlait du départ des Nordiques, une blessure qui ne sera jamais guérie dans le cœur des amateurs de sport. Oh que non, je rêverais une série canadien-nordique à l'heure actuelle. Si vous pensez que ça brasse, qu'on ne t'aime pas bien, ça aurait encore plus brassé Pascal contre les Nordiques. Ça aurait été extraordinaire. On se serait chicané avec nos voisins de Montréal. On aurait appelé les chroniqueurs sportifs au 99.5 en les traitant de bouffons qui connaissent pas ça.
En pleine ligne ouverte.
En pleine ligne ouverte. Ça aurait été écœurant. Mais non, c'est terminé. Les Nordiques nous ont quittés depuis maintenant 30 ans, même plus de 30 ans. C'est en 1994. Alors, si vous l'avez manqué, c'est disponible sur nos plateformes. Soit notre application BLVD 102.1 sur le blvd.fm et aussi sur notre page YouTube.
Parlant des Nordiques, on apprenait que l'ancien gardien des Nordiques, John Garrett, est décédé.
Oui, exactement. Un gardien qui a surtout eu une carrière avec les Canucks de Vancouver, mais qui a gardé une saison pour les Nordiques de Québec là, vers la fin de sa carrière, alors que les Nordiques étaient un petit peu plus jeunes. Il était venu porter main forte à l'équipe. En attendant de parler à Yvan Clich pour ce qui est des Émirats Arabes Unis qui veulent quitter l'OPEP, c'est-à-dire l'organisation des producteurs et exportateurs du pétrole. Pascal, qu'est-ce qu'on retient dans l'actualité?
Ce qui vient de sortir au niveau municipal, c'est que du 1er au 10 mai, vos sacs mauves là, de compost, vous gardez ça, parce que sinon, on envoie ça directement à l'incinérateur, ça veut dire aux poubelles. On a des travaux d'entretien à faire au centre de biométhanisation de la matière organique. Donc, ça ne sera pas traité pendant cette période-là. Gaspillez pas vos sacs. On garde ça bien enroulé. Je ris parce que je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour d'autres choses. Mais bon, c'est le cas de passer la communication de la Ville de Québec comme qu'on veut vous informer que ça ne sera pas traité pour une période de 10 jours. Gardez ça en note du 1er au 10 mai prochain. C'est une grosse cause au Palais de justice de Québec. Là, c'est l'enquête publique du coroner concernant le décès tragique de Maëline Luger. 13 ans. Et là, ce qu'on a su aujourd'hui de plus et qui a un peu fait figer tout le monde, c'est qu'il y a des textos qui avaient été envoyés par la jeune fille à l'une de ses amies. Des textos hyper inquiétants la journée même, comme quoi elle a dit qu'elle allait passer à l'acte dans cette journée-là. Et ça vient juste de venir à nos oreilles. Fait que tu comprendras qu'au palais de justice, tout le monde a un peu figé. Ça vient d'ajouter à toute cette semaine d'audience qui va se poursuivre. Je te rappelle que l'aspect psychiatrique avait été carrément laissé de côté dans le premier rapport réalisé par une autre coroner. Alors, cette fois-ci, c'est abordé devant le coroner Luc Malouin. C'est une jeune fille de 13 ans décédée dans un boisé, soit un genre de petit cap là, à proximité de son école.
Un petit ruisseau, exactement. Ouais. Jusqu'à présent, ça fait un jour et demi, là, les nouvelles audiences publiques qui ont lieu avec le coroner Luc Malouin. Mais déjà, on est capable, je trouve, de mettre le doigt sur certaines lacunes qu'il y a eu dans la séquence entre, justement, l'appel à l'aide de la jeune dame et sa mort, et entre le fait que les parents aussi avaient mis de la pression sur les autorités là, pour aider la jeune fille.
Bien, puisqu'on prend quelques secondes, c'était le père qui, devant les journalistes de Radio-Canada, avait dit « Moi, je comprends pas comment est-ce qu'on conclut une thèse accidentelle. » Là, il va falloir aller chercher plus loin. C'est pour ça qu'on est dans un deuxième rapport. Puis aujourd'hui, confusion encore, Jeff. Il va falloir éclaircir les faits parce que ce qu'on apprenait sur les textos, le coroner, on fait une envolée lyrique, a fait un commentaire en disant pourquoi est-ce que les policiers ne l'avaient pas mis dans les rapports.
En effet.
Pour les policiers de Lévis, ben, c'était si on avait eu l'information, on l'aurait mis dans les rapports. Mais on apprenait aussi en plus qu'il y a deux policiers à l'école qui auraient été au courant de ces textos-là le lendemain de la disparition de la jeune fille.
Exactement. C'est une éducatrice de l'école qui a rapporté le tout au coroner aujourd'hui.
Alors, ça fait beaucoup d'informations à élucider. Le Parti libéral du Québec présente aujourd'hui une promesse électorale importante. On parle de logement et c'est Charles Milliard qui va proposer un remboursement aux acheteurs de construction neuve. C'est 36 % de la taxe de vente du Québec jusqu'à concurrence de 10 000 $ qui sera remboursée. Mesure qui va être valide pour les propriétés qui s'en vont jusqu'à un demi-million de $. Bon, tu me diras que c'est pas tout le monde qui peut aller là. Je comprends mon Jeff, mais c'est la mesure du Parti libéral. Et peut-être y aller avec une dernière nouvelle qui fait bien réagir, c'est de la LHJMQ qui s'ajoute aux nombreuses voix qui réclament l'interdiction des boissons énergisantes aux jeunes âgés de moins de 16 ans. Mm-hmm. Et c'est en entrevue dans le Journal de Québec que le commissaire Mario Cecchini a lancé le fait que c'est pas un bon chemin que de prendre des raccourcis puis de penser qu'on va mieux performer en prenant ces boissons-là. Donc, il souhaite être un peu un chef de ligne là-dedans. Donc, question qui est revenue dans l'actualité récemment avec la sortie des parents. Entre autres, on les avait reçus, les parents du jeune Zachary Miron, ado décédé après avoir consommé une canette de Red Bull qui a causé une arythmie cardiaque en raison de l'interaction avec son médicament contre pour aider là, le TDAH. Je ne veux pas
en
dire contre.
Non. Gustave Rouel, justement chef de direction au réseau du sport étudiant du Québec, sera avec nous dans une dizaine de minutes pour en parler parce que le RSEQ aussi s'est positionné pour l'interdiction. Au sport, les Penguins de Pittsburgh ont une fois de plus sauvé leur peau hier. Victoire de 3-2 sur les Flyers de Philadelphie. Deux assistances pour Sidney Crosby. But gagnant Christopher Le Temps. C'est maintenant 3-2 dans la série. Et les Golden Knights de Vegas ont vaincu le Mammoth de Utah 5-4 en prolongation. C'est l'égalité 2-2 dans cette série. Deux buts pour Braden Holden, le joueur de centre de Vegas de 28 ans, qui ne nous habitue pas à des performances de la sorte. Il n'y avait que 12 buts depuis le début de la saison. Au baseball majeur, les Jays se sont inclinés au compte de 5-0 hier à domicile contre les Red Sox de Boston. Donc, avec une fiche de 12 victoires et 16 revers, les Jays ont un mauvais début de saison. Mais ce soir, c'est le retour d'un excellent lanceur partant, le jeune Trey Eceveige. C'est encore un match contre les Red Sox de Boston. Et dans la NBA, juste vous mentionner que la meilleure équipe dans l'Est, les Pistons de Détroit, tire de l'arrière 3-1 dans leur série. Magic d'Orlando a gagné 94-88 hier à domicile contre les Pistons. Donc, Détroit fera face à l'élimination. Le Thunder d'Oklahoma City, les champions, ont éliminé les Suns en 4 petit match grâce à un gain de 131-122. Et les Nuggets de Denver ont sauvé leur peau. C'est 3-2 dans la série en faveur du Minnesota. Victoire hier de Denver, 125-113. On va de ce pas rejoindre Yvan Klisch, spécialiste d'énergie au Cerium. En termes d'énergie, on veut parler des Émirats arabes unis qui se retirent de l'OPEP. Monsieur Klisch, comment allez-vous?
Bonjour, merci.
Merci, M. Klisch, d'être disponible. Qu'est-ce que ça signifie, ce retrait des Émirats arabes unis de l'Organisation des producteurs et des exportateurs du pétrole?
Oui, bien peut-être rappeler aux auditeurs que l'organisation a été créée dans les années 1960 mm-hmm. pour reprendre le contrôle, reprendre la main sur sa production pétrolière. C'était auparavant des grandes entreprises qui avaient la main sur l'industrie pétrolière et ces pays-là voyaient qu'ils ne tiraient pas, en tout cas ils jugeaient qu'ils ne tiraient pas des revenus suffisants de la manne pétrolière, donc ont décidé là, de se réunir et de prendre davantage contrôle de la production pour obtenir de meilleurs prix. Et comme on le sait, ben, ces recettes-là, c'est important pour leur développement, leurs recettes fiscales. Alors, c'est clair que les Émirats arabes unis, c'était vraiment un des membres clés de l'organisation, probablement le plus influent après l'Arabie saoudite. Alors, son retrait, c'est quand même une action historique et ça va assurément affaiblir considérablement l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. C'est une organisation dont les membres contrôlent environ 40% de la production mondiale d'or noir. Donc, le retrait, ça fait en sorte que ce cartel est donc passablement affaibli. Et ça va être évidemment un grand défi pour l'Arabie saoudite de maintenir la cohésion entre les membres restants. Il en reste plus que 11 présentement.
C'est donc un coup d'éclat politique.
Oui, ben en fait, il faut dire, les Émirats arabes unis avaient investi beaucoup ces dernières années dans leur production pétrolière. Comme on veut contrôler la production, ça veut dire que chaque membre se voit imposer un quota. Dans le cas des Émirats arabes unis, c'était 3,5 millions de barils de pétrole par jour et le pays est en mesure d'en produire 5. Donc, dans le contexte actuel, depuis quelques années, on sentait qu'il y avait des récalcitrances de la part de ce pays au maintien de ses quotas qui faisaient en sorte qu'il ne pouvait pas exploiter complètement sa capacité pétrolière. Et je pense qu'avec les événements actuels dans la détroit d'Ormuz, notamment l'attitude de l'Iran qui est un membre de l'OPEP, je pense que les Émirats arabes unis se sont dit, ben nous, on va faire maintenant cavalier seul et on va tenter de vendre notre pétrole davantage, notamment auprès du continent asiatique. Il faut quand même rappeler qu'il y a deux pays qui peuvent encore un peu exporter leur capacité pétrolière. C'est l'Arabie saoudite qui, avec une canalisation qui va vers la mer Rouge, peut transiter une partie de sa production. et également les Émirats arabes unis qui ont aussi un autre oléoduc qui est utilisé pour écouler une partie, pas toute, mais une partie de leur production avec une canalisation, dis-je bien, donc qui débouche sur l'océan Indien.
Est-ce que à court terme, ça peut avoir un impact sur le baril de pétrole, c'est-à-dire le diminuer? Parce que ce que je comprends, c'est qu'on va peut-être se retrouver avec plus de production par rapport à la demande.
Pour les gens qui, bien sûr, un peu, nous tous qui consommons du carburant, c'est en théorie une bonne nouvelle. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une bonne partie de la production des Émirats arabes unis qui reste bloquée par la paralysie dans le détroit d'Ormuz. Mais à terme, lorsque le conflit sera résolu, la volonté des Émirats arabes unis de mettre plus de pétrole sur le marché, bien sûr, ça fait en sorte que ça contribue à un fléchissement des prix à l'échelle mondiale. Donc, c'est clair que pour les intérêts, je dirais, des consommateurs, c'est une bonne chose et ça fait en sorte, mais évidemment, on va en voir les effets simplement quand la crise actuelle va se résoudre, parce que même si les Émirats voulaient mettre toute leur production sur le marché, ils ne peuvent pas. Leur oléoduc qu'ils peuvent présentement utiliser est quand même contraint à 1,5 million de barils de pétrole par jour, donc le restant jusqu'à 5 millions, ils ne peuvent pas le mettre en mer et l'exporter. Mais une fois que le conflit sera réglé, c'est clair que cette production supplémentaire va contribuer à un fléchissement des prix à l'échelle mondiale. Et très honnêtement, ça va être une bonne chose parce qu'on le sait, la production actuelle dans le Golfe Persique ne reviendra pas à la normale avant de longs mois, voire même pas avant 2027. Donc, avoir plus de pétrole sur le marché, ça va être une bonne chose pour l'économie mondiale qui dépend encore beaucoup du pétrole.
Vous parlez justement du conflit entre les États-Unis et l'Iran et du détroit d'Ormuz qui est encore bloqué. Selon vous, combien de temps ce blocage-là peut durer? Et pendant combien de temps l'Iran peut encore justement bloquer ce détroit-là?
Écoutez, moi, sur le côté militaire, je peux moins me prononcer, mais sur le côté énergétique, moi, je me fie notamment à quelqu'un qui connaît quand même bien le marché, le président de Total Energy, M. Pouyanné, qui a dit récemment, il y a quelques jours, écoutez, ce conflit-là, il peut pas durer plus que 2-3 mois, sinon il va y avoir véritablement des secousses majeures pour l'économie mondiale. Déjà, on le sait, en Asie, l'économie fonctionne au ralenti parce qu'ils obtiennent beaucoup moins de pétrole qu'auparavant. Ils étaient les principaux clients du pétrole et du gaz qui circulaient, qui transitaient par le détroit d'Ormuz. Et maintenant, nous aussi, on commence à voir les conséquences. L'Agence internationale d'énergie a dit il y a quelques jours que il y avait plus de kérosène que pour 6 semaines en Europe. Donc, le kérosène qui sert pour faire le transport aérien. Donc, on voit déjà les prix augmenter, le prix des vols. Plusieurs compagnies aériennes en Europe ont éliminé des centaines et des centaines de vols. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, nous aussi, on va commencer à en voir les effets. Faut se souvenir que le pétrole, ça sert aussi à des produits comme le plastique, les vêtements. Donc, assurément, le fait que la denrée devient plus rare va faire en sorte que ça va créer une inflation. Le Fonds monétaire international l'a confirmé. On va avoir une économie bien plus au ralenti ou en tout cas moins dynamique qu'on l'aurait eu s'il n'y avait pas eu la crise. Et on va avoir aussi une inflation plus grande. Donc, plus la crise perdure, plus ce ralentissement économique et cette inflation vont s'inscrire comme des fondamentaux de l'économie mondiale en 2026.
Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans notre angle mort? Là, par exemple, à un moment donné, on lisait que la Chine aurait envoyé plein d'armements en pleine nuit à l'Iran dans ce conflit-là. Qu'est-ce qu'on ne voit pas en termes d'alliance ou encore de chicane qui pourrait se produire là, dans les prochaines semaines?
Moi, écoutez, je vais vous dire ce que je dis aussi à mes proches, c'est qu'on mesure pas l'ampleur de la crise. Là, c'est clair que nous, en Amérique du Nord, on est un petit peu illoté de la crise parce que on n'a pas de rupture d'approvisionnement. Mais pour toute personne, les Québécois qui se situent en Asie, je pense, pourraient témoigner qu'on commence à voir les effets importants. Il faut pas oublier, l'Asie, c'est un des centres manufacturiers du monde, comme ces usines.
Oh, on a perdu malheureusement la communication avec M. Clich. Attends, je vais
essayer. Qui viennent de l'Asie vont nécessairement être moins nombreux et vont devenir plus chers à mesure que la crise va perdurer. Donc moi, je vais assurément faire de plus en plus de pression sur l'Iran et les États-Unis pour régler la crise parce que les secousses économiques, les impacts économiques deviennent de plus en plus gravissimes pour les populations.
En terminant, M. Clich, quelles conséquences ça pourrait avoir sur des producteurs comme le Canada? Est-ce que ça pourrait nous mettre à risque? Parce que je vais juste regarder aujourd'hui avec la mise à jour économique. Notre déficit va être moins grand parce que le prix du baril de pétrole a augmenté. Donc, est-ce qu'au niveau économique au Canada, on va avoir un ressac?
Moi, deux choses. Là, pour l'économie américaine, mais aussi pour l'économie canadienne, on a une grande on est quand même le quatrième producteur de pétrole au monde. Donc, c'est clair que les prix plus élevés, ça profite aux producteurs. Donc, c'est une bonne année pour les compagnies pétrolières. Donc, ça veut dire que les gouvernements peuvent aller chercher plus d'impôts auprès de ces entités. Mais globalement, pour l'économie en général au Canada, c'est pas une bonne chose parce que ça crée une inflation des prix des carburants. Tout ce qui se transporte utilise du carburant, ça veut dire que ça impacte donc toutes les denrées, y compris les denrées alimentaires. Donc, au global, les économistes disent que c'est pas une bonne chose pour le Canada. Et puis, pour répondre aussi un peu plus avant sur la question notamment des Émirats arabes unis, c'est sûr que s'ils mettent plus de pétrole sur le marché, ça fait un concurrent de plus pour le pétrole canadien. Je dis pas que c'est très important, mais c'est quand même une donne là, que les producteurs avec lesquels ils vont devoir composer. Mais encore une fois, tout ça aussi, il faut mettre ça dans le contexte que le Canada, de toute manière, ne peut pas exporter toute la quantité de pétrole qu'il veut. Le pays est contraint par une seule voie d'acheminement de son pétrole, qui est la canalisation Trans Mountain, qui part de l'Alberta vers la Colombie-Britannique, et c'est limité à 1 million de barils de pétrole par jour.
Yvan Clich est spécialiste en énergie au Cerium. Merci beaucoup, M. Clich, de nous avoir éclairé sur cette décision des Émirats arabes unis de se retirer de l'OPEP, et au plaisir de se reparler bientôt.
Au plaisir, merci, au revoir.
Merci, c'était Yvan Clich avec nous. Donc, Pascal, on comprend que pour nos poches, ça peut être bon, parce que le prix du baril de pétrole va diminuer, évidemment, lorsque le conflit États-Unis-Iran sera réglé.
En même temps, ça peut être mauvais, parce qu'il va y avoir une diversification à plus long terme. À court terme, effectivement, c'est vraiment les alliés là-dedans que j'ai hâte de voir, parce qu'on vient de vivre une redécoupe là, au niveau de la géopolitique. Quand c'est l'économie arrive de même, là, aussi sévèrement.
En plein ça. Et comment qu'on va travailler? Est-ce que ça va nous ouvrir la voie pour, après ça, redonner des sanctions à la Russie par rapport au pétrole? Donc, il va y avoir beaucoup de mouvances en termes géopolitiques à surveiller. Il n'y a aucun doute. Courte pause à Boulevard 101. Par la suite, on s'entretient avec Gustave Roel, chef de la direction du Réseau du sport étudiant du Québec. On va jaser, entre autres, de cette interdiction pour les moins de 16 ans aux boissons énergisantes.